Bonjour à tous, à tous les courageux qui ont bravé le froid et le verglas. Donc, ce séminaire a pour but, pendant 6 semaines, de vous proposer un certain nombre d'exposés qui font le point sur un certain nombre de grandes questions en histoire ou en sciences politiques sur les thèmes du vote et de l'élection. Les deux questions du vote et de l'élection ne se confondons pas, et nous le verrons dès ce matin à Rome. Alors, Virginie Hollard, qui est la première invitée de ce séminaire et maître de conférence en histoire romaine à Lyon 2, et si je l'ai invitée, c'est qu'elle vient de publier sa thèse aux éditions du CNRS, un livre qui a pour titre « Le rituel du vote, les assemblées du peuple romain ». Ouvrage dans lequel elle développe ce dont elle va nous entretenir, le fait que le vote ne doit pas simplement être considéré comme une opération fonctionnelle, mais comme un rituel. Virginie Hollard s'est spécialisée, d'autre part, à partir d'un certain nombre de travaux, autour de cette période du Principat, le moment où César devient Auguste et le passage d'Auguste à Tibère. Elle a fait notamment sur cette période divers travaux sur le rôle du peuple à Rome pendant cette période et différents travaux sur les atteintes à la mémoire, la damnatio memoriae, également pendant cette période. Donc je vous signale, oui, juste maintenant, que vous savez que Cicéron avait écrit un petit manuel de campagne électorale qui est assez savoureux. Il donne des conseils sur la façon dont il faut se faire des amis en politique, dont il faut séduire les électeurs, dont il faut se préoccuper de l'opinion publique. Ce petit manuel a été publié dans une belle édition, aux éditions Arléa, mais il vient d'être réédité ces jours-ci aux belles lettres, hein, dans un volume de petit format. Donc ceux qui s'intéressent à cette question-là, c'est un petit livre très amusant. Je signale aussi qu'il y a eu la traduction d'un ouvrage allemand aux mêmes belles lettres de Karl Wilhelm Weber sur la fièvre électorale à Pompéi, hein, qui est aussi une introduction à ces questions du vote. Voilà, ben je donne tout de suite la parole à Virginie Hollard avant que tout à l'heure nous ayons un peu un échange ensemble.
Merci beaucoup. Avant de commencer mon exposé, je voudrais évidemment remercier M. Pierre-Rosan Vallon de m'avoir invité à parler aujourd'hui devant vous et à vous présenter un petit peu l'état de mes travaux et de mes recherches sur le vote et les élections à Rome. J'ai donc intitulé ma conférence de ce matin « Voter à Rome, une pratique institutionnelle, un rituel politique et une certaine idée de la démocratie ». Lorsque l'on décide de se pencher sur les questions de vote et de démocratie pour la période antique, l'habitude veut que l'on tourne son regard du côté d'Athènes. Rome, quant à elle, présente l'image d'une république de nature oligarchique, gouvernée par une poignée de magistrats et de sénateurs, avant de basculer dans un régime impérial qui a nourri tous les fantasmes de tyrans, réduisant au silence et soumettant à leur arbitraire le peuple et les acteurs traditionnels de la vie politique romaine. Une république de sénateurs, puis une civilisation soumise à des empereurs parfois sanguinaires, voilà un tableau de la vie politique romaine qui semble ne laisser que très peu de place au vote du peuple, et encore moins à toute idée d'une démocratie romaine. Cette vision a été largement alimentée par les sources littéraires de nature historique, surtout celles datant de l'époque impériale, œuvres d'auteurs aussi célèbres que Tacite, Suétone, Velleius Paterculus ou encore l'historien grec Dion Cassius. Comme preuve d'une vision dépolitisée du peuple romain, on peut citer l'expression célèbre du satiriste Juvénal montrant à l'époque impériale un peuple dont les seuls besoins consistaient à réclamer du pain et des jeux, besoins auxquels un empereur en quête d'un calme politique consensuel, s'empressait de répondre immédiatement. Mais à côté de cette réalité, s'en trouve une autre, celle d'un peuple systématiquement associé au Sénat dans la célèbre formule « SPQR, Senatus Populusque Romanus », qui trône sur les frontons des grands arcs à Rome et dans tout le monde romain. Pour l'époque républicaine, l'image d'un Sénat dominant cohabite avec la réalité du forum qui laisse sa place à l'expression politique du populus, forum que tout le monde, de nos jours, identifie comme un des monuments publics les plus emblématiques de la romanité. À cette réalité architecturale correspond la réalité d'une représentation collective, selon laquelle chacun d'entre nous a en tête que le citoyen romain, exercé entre autres dans toute l'étendue de son métier, pour reprendre le titre du célèbre ouvrage de Claude Nicolet, une fonction d'électeur. Comment alors, à travers ces images qui semblent se contredire les unes par rapport aux autres, peut-on arriver à avoir une image claire de ce qu'était le poids du vote populaire à Rome, plus généralement du rôle politique du peuple romain, et une image claire de ce que fut son évolution dans le cadre du changement que certains considèrent comme radical entre la République et le Principat. J'ai essayé de répondre à cette double question en discutant à la fois l'image peut-être survalorisée du rôle politique du peuple sous la République et la dévalorisation de ce même rôle politique à l'époque impériale. C'est cette discussion que je vais rappeler ici devant vous aujourd'hui en retraçant brièvement une histoire du vote romain, de la République à la période impériale, et en proposant une interprétation du sens de ce vote, me permettant peut-être, tout en conciliant les images précédentes que je viens d'énoncer, de donner à l'Antiquité romaine un rôle dans la définition du concept de démocratie. Alors, avant d'en arriver au cœur du sujet, je me permets de vous faire juste quelques rappels chronologiques pour bien cadrer mon propos. La République romaine s'ouvre en 509 avant Jésus-Christ, avec la fuite du dernier roi étrusque Tarquin le Superbe, et se clôt officiellement le 13 janvier de l'année 27 avant notre ère, lors d'une séance sénatoriale qui, en rebaptisant Octavien Auguste, entame le processus de mise en place de ce que l'on appellera, pour les premières décennies du régime impérial, le Principat. Auguste est le premier princeps romain, ouvrant la dynastie julio-claudienne, première dynastie d'empereurs romains. Cette république reposait sur ce que l'historien grec Polybe appelait une constitution mixte, c'est-à-dire un équilibre entre trois natures de régimes politiques différents, un régime monarchique, un régime oligarchique, un régime démocratique. Polybe écrit cette théorie de la constitution mixte alors qu'il est otage à Rome après la victoire de Rome sur la Grèce dans la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans son histoire romaine qui lui permet de retracer l'histoire de l'impérialisme romain et d'expliquer la raison de la suprématie militaire de Rome sur ses ennemis. Et une des explications qu'il trouve à cette suprématie militaire, c'est l'équilibre de son régime politique. Équilibre qui est dû précisément à cette conciliation entre trois régimes différents. Le régime monarchique était représenté par les deux consuls, magistrats suprêmes, terminant le cursus honorum et dont les pouvoirs étaient hérités des pouvoirs royaux. Le régime oligarchique était représenté par le Sénat, chambre regroupant les anciens magistrats de la cité. Et enfin, le régime démocratique était représenté par le peuple qui, dans le cadre de ses assemblées, opérait des opérations de vote. Donc voilà le cadre de la situation, à la fois dans son cadre chronologique et la situation politique et institutionnelle qui va servir de cadre à ma démonstration. J'en arrive maintenant au cœur de mon propos, c'est-à-dire vous présenter de la manière la plus concise qu'il me sera possible de le faire, une histoire du vote romain avant d'en arriver à réfléchir à son interprétation politique. Alors, dans ce premier temps de mon exposé, je vous avertis juste que vous serez un peu peut-être freiné par le côté extrêmement détaillé de du récit que je vais vous faire en termes de procédure de vote, ce qui peut avoir un côté un petit peu pesant, mais je suis obligée de décomposer ce que j'ai considéré comme étant un rituel, précisément parce que c'est dans le détail du rituel que vous allez pouvoir vous rendre compte de l'importance de ce geste électoral et, à mon sens, du coup, lui donner tout le sens et expliquer sa longévité, ce que je ferai dans le deuxième temps de mon exposé. Donc, je m'excuse par avance de ce côté un petit peu pesant du démarrage de mon exposé. Il faut un petit peu se cramponner au démarrage, mais je vais essayer d'être la plus claire et la plus concise possible. Dans son ouvrage, donc, que j'ai déjà cité, intitulé « Le métier de citoyen dans la Rome républicaine », Claude Nicolet a montré comment l'activité de vote du citoyen romain était déterminante dans la définition même de la citoyenneté romaine. Le peuple vote à Rome à deux occasions, dans les élections des magistrats et dans les votes de loi. Les assemblées qui encadrent le vote romain sont de deux natures. Il y a les comices, qui sont les assemblées dans le cadre desquelles se déroulent à proprement parler les opérations de vote, et il y a les contiones, qui sont des assemblées préparatoires au vote, des moments de discussion qui ne sont pas donc les temps du vote, mais qui préparent le processus électoral qui, lui, aura lieu dans un second temps dans le cadre des comices. Il existe trois types de comices à Rome. Les comices curiates, les comices tributes et les comices centuriates. Alors, je ne parlerai que très rapidement des premiers comices, les comices curiates, qui cessent de jouer un rôle politique important relativement tôt sous la République et qui étaient en fait une première représentation d'un peuple divisé en curies à l'époque royale. Donc, c'était une première forme d'assemblée du peuple qui a probablement été très active à l'époque royale, mais qui cesse assez tôt de continuer à jouer un rôle politique important à partir de la mise en place de la République. J'en parlerai juste à une occasion, parce que là, on va déjà toucher du doigt ce poids du rituel à Rome et ce poids des symboles politiques. Les comices curiates, je vous le disais, cessent de jouer un rôle politique déterminant, et pourtant, on continue, dans le ritualisme romain, à leur laisser la prérogative d'une mesure qui est parfaitement symbolique, éminemment formelle, qui politiquement n'a pas grande efficacité, mais qui dans les représentations collectives est extrêmement importante. Ces comices curiates, ou du moins ceux qu'il en reste, continuent à se réunir pour voter une loi qui entérine l'élection des magistrats supérieurs que sont les préteurs et les consuls. Alors pourquoi dit-on magistrats supérieurs ? Parce que ce sont des magistrats dotés de ce qu'on appelle un imperium, qui était un pouvoir de commandement civil et militaire. Ces magistrats supérieurs, dotés de l'imperium, sont les préteurs, donc en charge essentiellement de l'exercice de la justice, et les consuls. Ces magistrats étaient élus, on va voir qu'ils étaient élus à l'issue d'un processus électoral, mais une fois leur élection achevée, on devait voter une loi spéciale qui couronnait en fait le processus électoral et qui dotait officiellement ces magistrats de leur imperium. C'est ce qu'on appelait une lex, une loi des impériaux. Et cette loi, la coutume voulait que ce soit les comices curiates qui votent cette loi. C'est la seule trace que l'on ait d'un rôle politique de ces comices à l'époque républicaine. J'en viens donc aux assemblées les plus importantes du peuple romain, qui étaient les deux autres assemblées de vote, les comices tributes et les comices centuriates. Les comices tributes avaient comme rôle d'élire les magistrats inférieurs, donc ceux qui n'étaient pas dotés de cet imperium, c'est-à-dire les questeurs et les édiles. Les comices tributes votaient également la grande majorité des lois du peuple romain. Les comices centuriates élisaient les magistrats supérieurs à imperium, c'est-à-dire les préteurs et les consuls. Ils élisaient également les censeurs, qui étaient une magistrature supérieure mais non dotée d'imperium. Et les comices centuriates votaient une minorité de lois c'est-à-dire des lois qui avaient essentiellement un contenu militaire, les déclarations de guerre et les conclusions de traités internationaux. Le peuple romain n'était pas organisé de la même manière selon qu'il était convoqué dans l'une ou l'autre de ces deux assemblées. Quand le peuple romain était convoqué dans ses comices tributes, il était réparti en tribus. La répartition en tribus correspond à une répartition du peuple selon un critère géographique qui dépendait du lieu de naissance du citoyen. Il existe à Rome, à partir de l'année 241 avant Jésus-Christ, 35 tribus, 4 tribus urbaines et 31 tribus rurales. Ces tribus garderont leur caractère topographique tout en finissant par devenir héréditaires. On change peu de tribus à Rome car c'est un cadre qui fait partie de l'état civil même du citoyen. Le citoyen romain se définit par ses tria nomina, par les trois composantes de sa dénomination officielle et par l'appartenance à sa tribu. Voilà donc pour la répartition du peuple en comices tributes. Les comices centuriates rassemblent le peuple divisé en classes censitaires. Au sein de ces classes censitaires, on trouve une autre subdivision qui porte le nom de centurie. La formation de ces comices centuriates daterait du VIe siècle avant Jésus-Christ et serait l'œuvre du deuxième roi étrusque. Ces classes censitaires permettaient de répartir les citoyens en fonction de leur fortune, et elles étaient au nombre de 5. Chaque classe censitaire était par ailleurs divisée en un certain nombre de centuries qui constituaient les unités de vote. Cette assemblée était à l'origine une organisation militaire. Les classes censitaires étaient également des classes de guerriers dont l'armement dépendait du census, c'est-à-dire de la fortune individuelle. Chaque classe est donc ensuite divisée en centuries, qui étaient elles aussi des unités de l'armée romaine, et ces centuries étaient de deux natures. Il y avait les centuries de jeunes gens, qui étaient les centuries de juniores, et les centuries de personnes plus âgées, qui étaient les centuries de seniores, ce qui équivalait, dans l'armée, à une distinction entre la population active et la population de réserve. En tant qu'organisation militaire, ces comices centuriates étaient convoqués sur le champ de Mars, c'est-à-dire à l'extérieur de l'enceinte sacrée de la ville, le Pomerium, enceinte infranchissable par tout homme armé. Ces comices centuriates reposaient sur le concept de l'égalité géométrique. Le principe de cette assemblée était de restreindre l'expression politique au vote des plus riches. Tout vote des comices centuriates se déroulait dans un ordre successif des classes censitaires, avec une interruption du processus de vote dès qu'une majorité était atteinte. Or, le nombre total de centuries était de 193, et les deux premières classes comprenaient à elles seules un total de 98 centuries. Il est facile de constater donc que les dernières classes censitaires, lorsqu'il y avait unanimité de vote dans les premières, étaient rarement appelées aux urnes. Les premières classes censitaires étaient celles qui contenaient le plus de centuries, mais des centuries les moins chargées en individus, tandis que les dernières classes censitaires comprenaient un nombre relativement faible de centuries, mais ces centuries étaient beaucoup plus chargées en individus. C'est ce principe qui faisait aux yeux de l'aristocratie romaine la noblesse du système centuriate, qui réservait le vote aux élites de la cité. Voilà pour les assemblées de vote.
Le micro marche,
donc je continue.
On peut continuer.
Alors, il faut juste voilà, que je lise mes notes. À côté donc de ces assemblées de vote, il y avait, je le disais, les contiones, les assemblées préparatoires au vote. Ce sont des assemblées informelles au cours desquelles donc le peuple ne vote pas, au cours desquelles n'a lieu aucune prise de décision. Elles étaient convoquées pour préparer les réunions des comices législatifs et électoraux. En dehors de toute occasion de vote, ces contiones pouvaient également être réunis uniquement dans le but de communiquer certaines informations importantes aux citoyens. Alors, je reviendrai là-dessus dans un moment, mais ce qu'il est déjà important de noter, c'est que, autant dans les comices, le peuple n'est pas amené à parler, autant dans les contiones, le peuple peut prendre la parole. Et cette distinction est importante, notamment, j'y reviendrai dans la suite de mon propos. Alors j'en viens maintenant à la partie un peu ardue, qui correspond au déroulement des procédures de vote. Ce qui veut dire que la partie ardue n'avait pas encore commencé, donc elle commence maintenant. Je préfère vous avertir, ça ne durera pas trop longtemps. Alors, je commence par la procédure législative. La plupart des votes de loi avaient lieu dans les comices tributes. Et donc, c'est surtout sur la procédure des comices tributes que je vais m'arrêter pour étudier la procédure législative. C'est aux magistrats, et non aux comices, que revient l'initiative de la loi. Le magistrat propose une loi qui porte le nom de rogatio et porte du coup lui, en tant que magistrat déposant le projet de loi, le nom de rogator. Le projet rédigé est porté à la connaissance des citoyens par voie d'affichage et il reste affiché pendant 24 jours. Dans ce laps de temps, qui sépare la promulgation et l'affichage du projet de loi, du vote en lui-même de la loi, les citoyens examinent le projet, discuté devant eux au cours de plusieurs réunions préparatoires que sont donc les contiones. Le matin même du jour de vote se déroule la prise des auspices, cette cérémonie religieuse qui consiste à observer le vol des oiseaux pour y voir l'accord des dieux, doit précéder toute action qui engage la cité. Pendant son accomplissement, a lieu la convocation des citoyens. Ceux-ci sont d'abord réunis en une ultime contio. Ils sont assemblés sans distinction de groupe. Le magistrat lit devant eux son projet de loi, puis invite les électeurs à se prononcer sur un texte qui, dès lors, ne peut plus être corrigé. La lecture est précédée d'une prière qui porte le nom de Carmen, le Carmen des comices. Puis, avant que ne soit posée la question soumise au vote, il faut répartir les citoyens en groupes. Une fois la répartition faite, le vote peut alors commencer. Dans les comices législatifs, les citoyens ne peuvent répondre que par oui ou par non. Alors, juste là, j'anticipe sur la suite, mais il va y avoir à la fin du IIe siècle une introduction du vote secret, du vote écrit à Rome, qui, pour autant, en tout cas selon l'analyse de Claude Nicolet, ne va pas fondamentalement changer la procédure de vote dans les comices tributes législatifs. C'est-à-dire qu'au lieu de donner sa réponse à l'oral devant le rogator, chaque membre d'une tribu va inscrire la réponse extrêmement simple à la question « Voulez-vous voter cette loi ou non ?» Étant donné la simplicité de la question et, du coup, la simplicité de la réponse, il est possible que même après l'introduction du vote écrit, le vote ait pu continuer de se dérouler de manière successive, c'est-à-dire qu'on faisait voter les individus les uns après les autres, tribu par tribu. Le résultat du vote devait être connu au fur et à mesure, après que chaque tribu avait fini de voter. Ce vote successif explique que le vote ait pu être interrompu après le passage et le dépouillement des votes de la 18e tribu, puisque je vous rappelle qu'il y avait 35 tribus. Si 18 tribus ont voté unanimement pour ou contre le projet de loi, étant donné que l'annonce du résultat a été faite après que chaque tribu ait fini de voter, on a pu très bien arrêter la procédure de vote après le vote de la 18e tribu, une fois que la majorité s'était dégagée. Une première tribu était invitée à voter, elle était tirée au sort, et au sein de cette tribu, le nom de celui qui allait voter était également tiré au sort. Celui qui allait voter en premier était également tiré au sort. Lorsqu'une majorité favorable à la loi était obtenue, le magistrat promulguait la loi par une déclaration solennelle. Quelques mots très rapidement de la même procédure législative, mais dans les comices centuriates, qui, je vous le rappelle, ne votaient que très très peu de lois. Là, il semble que les classes censitaires aient voté successivement, que le vote ait été oral ou qu'il ait été écrit, conformément au principe fondamental du système centuriate, sur lequel je me suis un peu arrêtée tout à l'heure, qui voulait qu'on n'aille pas nécessairement chercher les votes des classes censitaires les plus basses. On peut penser qu'une fois que le vote a été est passé à l'écrit, au sein des classes censitaires, les centuries, en revanche, pour simplifier la procédure, ont pu voter ensemble. Mais les classes censitaires votaient toutes les unes après les autres afin de ne pas avoir éventuellement à descendre trop bas dans la hiérarchie censitaire du peuple romain. Voilà pour la procédure législative. J'en viens à la procédure électorale. La plupart des magistratures à Rome étaient annuelles et électives, ce qui voulait dire donc que l'essentiel du personnel politique était renouvelé chaque année. Les magistrats romains étaient représentés par deux consuls, des préteurs dont le nombre n'a cessé d'augmenter pour atteindre le chiffre de 10 à l'époque augustéenne, deux censeurs élus tous les 5 ans. Voilà pour les magistrats supérieurs élus par les comices centuriates. Les comices tributes élisaient chaque année 4 édiles, 4 questeurs et 10 tribuns de la plèbe. Il fallait compter au moins une journée de vote par magistrature et jusqu'à 2 ou 3 jours de vote lorsque les magistrats d'un même collège étaient nombreux. Le bilan que dresse Claude Nicollet est le suivant, je le cite, « Tout compte fait, le peuple était convoqué au moins 7 fois par an pour des élections qui pouvaient durer ensemble une quinzaine de jours. » Je finis de le citer, c'est ce qui lui fait encore écrire que le métier de citoyen était une activité à plein temps. Alors, venons-en à la procédure en elle-même. Toute élection commence par une déclaration de candidature des candidats qui porte le nom de professio. Cette déclaration de candidature était déposée auprès du magistrat présidant la séance de vote. Au terme de la réception de toutes les professiones, de toutes les déclarations de candidature des candidats, le magistrat éditait une liste de candidats qui allaient être affichés. C'est ce qu'on appelait la phase de nominatio, la phase au cours de laquelle les noms des différents candidats étaient officiellement affichés. On va retrouver des points communs avec la procédure législative. Le jour de l'élection ont lieu conjointement la prise des auspices et la convocation des citoyens. Une contio est organisée, mais contrairement au vote des lois, il n'y a pas plusieurs contiones qui précèdent la séance électorale. Une seule contio a lieu le jour même de l'élection, juste avant de passer à la phase de vote. Alors, cette contio électorale est intéressante parce que on peut se demander finalement si elle était un lieu participant du moment de campagne électorale des candidats. Et là, effectivement, le manuel de campagne électorale du frère de Cicéron est tout à fait intéressant parce qu'il dit très clairement à son frère, pour préparer l'élection de Cicéron au consulat en 63 avant Jésus-Christ, il lui déconseille formellement de se présenter devant la contio préalable le jour de l'élection. Et l'argument qu'il a est quand même tout à fait intéressant. Il dit « Ne te présente pas devant la, ne prends pas la parole dans la contio le jour de l'élection, parce que là, tous les électeurs vont être réunis et tu risques de devoir tenir des propos contradictoires. Puisque le candidat a eu en amont tout son temps de campagne électorale pour annoncer des choses pas forcément compatibles selon les interlocuteurs qu'il avait en face de lui, s'il prend la parole officiellement dans le cadre de la contio, les électeurs vont se rendre compte qu'il y a peut-être quelques incohérences dans son programme. Par conséquent, la contio n'était pas un lieu de campagne électorale. Elle pouvait servir à un moment de renversement de tendance en cas de difficulté pour un candidat. Mais c'est finalement une contio dont on a du mal à bien identifier la fonction dans le processus électoral. Et je me suis arrêtée un petit peu sur ce détail de la contio parce que, en termes de degré, justement, de démocratie à Rome, la contio est à la fois très intéressante et en même temps est un objet d'étude tout à fait mystérieux parce qu'on ne sait jamais très, très clairement qui prenait la parole, à quel moment. Est-ce que c'était les magistrats ou est-ce que le peuple le peuple des électeurs ou des votants pouvait vraiment prendre la parole, c'est des choses sur lesquelles les sources que nous avons à notre disposition restent relativement floues. Quoi qu'il en soit, la Comtio est dissoute et le scrutin, à proprement parler, peut commencer une fois accompli le carmen des comices et la répartition du peuple en groupes. Alors, lorsqu'il s'agissait des élections de magistrats inférieurs, ce sont donc les comices tributes qui interviennent et qui, une fois introduit le vote secret, votent toutes ensemble. Pour les comices centuriates, qui élisaient donc les magistrats supérieurs et qui avaient nécessairement un vote beaucoup plus hiérarchisé que les comices tributes, il est possible, là encore, que les centuries aient pu voter ensemble, mais il est évident que les classes censitaires votaient successivement. Spécificité de la procédure électorale par rapport à la procédure législative est réservée aux comices centuriates, le tirage au sort au sein de la première classe censitaire d'une centurie appelée prérogative, dont le résultat du vote était immédiatement annoncé avant que les autres centuries de la même classe, et donc a fortiori que les classes qui lui succédaient, passent au vote. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça nous montre à quel point le vote est parfaitement guidé. On tire au sort une centurie au sein, alors, de la première classe, même si là, il y a des discussions entre spécialistes, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais en tout cas, parmi les élites, ça il est évident qu'on ne sortait pas de ce cadre-là. Et cette centurie a été qualifiée par Cicéron lui-même de présage. Ce qui veut dire quand même qu'elle indiquait une tendance du vote tout à fait importante et qu'on a là aussi des traces d'une interruption de la séance électorale si le résultat de la centurie prérogative était contraire aux intentions du magistrat présidant la séance électorale. Parce qu'il faut savoir, même j'y reviendrai tout à l'heure, que le magistrat qui présidait ces séances de vote pouvait à n'importe quel moment interrompre le vote, qu'il soit législatif ou électoral, parce que c'était lui qui avait fait la prise d'auspice, c'est-à-dire qui avait, à un moment donné, interrogé les dieux concernant le vote qui allait se dérouler. Et parce qu'il avait ce monopole des auspices, il était donc en lien avec, éventuellement, un mécontentement, ou en tout cas, un message céleste, divin. Et donc, le magistrat président pouvait, à n'importe quel moment, au nom d'un présage qui lui semblait de mauvais augure, interrompre la séance de vote. Une fois le vote terminé, le dépouillement a lieu et ce dépouillement aboutit à la désignation des candidats. Alors, là aussi, dans l'assemblée centuriate, on dépouillait classe censitaire après classe censitaire. Dans l'assemblée tribute, étant donné que toutes les tribus ont dû voter ensemble, le dépouillement devait prendre un certain temps. Où avaient lieu ces votes à Rome? Alors, au départ, à l'époque républicaine, un lieu spécifique était réservé pour les comices tributes, puisque les comices centuriates, on a vu, se réunissaient nécessairement sur le Champ de Mars. Un lieu avait été prévu, c'était le comitium, qui était à côté de la curie et qui donc formait cette représentation de la coalition Sénat-Peuple romain dans la topologie même du forum romain. À partir de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, le comitium a été abandonné, notamment probablement à la suite du passage au vote secret. Une fois que toutes les tribus devaient voter en même temps, le comitium n'était plus du tout adapté à ce genre de proportions démographiques. Et le vote des comices tributes a lui aussi été rapatrié sur le Champ de Mars. Alors, j'en ai terminé avec ce déroulement des procédures de vote, et j'en viens maintenant, avant d'en arriver vraiment au deuxième temps de mon propos, à essayer de tirer des conclusions de ce qu'on peut déjà voir comme étant les caractéristiques du vote romain. Ce que j'ai essayé de dérouler devant vous, c'est ce rituel, et justement le côté extrêmement précis du protocole, de la procédure, caractère extrêmement précis qui va expliquer, à mon sens, largement la longévité et la pérennité du vote romain qui subsistera, qui survivra à tous les soubresauts politiques, même les plus radicaux. Mais au-delà de cette caractéristique de rituel, quelles sont les autres caractéristiques du vote romain? Ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que les Romains votaient en groupe et que donc le vote romain n'est pas un groupe, n'est pas un vote pardon, par tête, n'est pas un vote individuel, mais un vote du groupe. On dépouille le vote d'une tribu, on dépouille le vote d'une classe censitaire, et au sein de la classe censitaire, on dépouille le vote des centuries, et l'individu disparaît complètement dans cette manière de compter les voix. Ce qui compte, c'est la loi ou le magistrat pour lequel ou pour laquelle le groupe, la tribu ou la classe censitaire s'est prononcé en faveur ou au contraire en défaveur. Donc, vote par groupe, ça c'est extrêmement important. Deuxième caractéristique, un vote au cours duquel le magistrat qui préside la séance de vote a un rôle tout à fait prépondérant, je viens de vous en parler, et effectivement, donc, du début à la fin du processus, le magistrat président peut vraiment faire ce qu'il veut et interrompre la séance législative, la séance électorale, comme il le veut. On a un exemple de ce type, alors on en a plusieurs pour l'époque républicaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un exemple à l'époque augustéenne de ce type d'intervention d'un magistrat président. En 19 avant Jésus-Christ, un certain Egnatius Rufus s'était présenté comme candidat au consulat et il devait être le collègue, puisqu'il y a deux consuls, le collègue du consul qui était déjà en charge. Et il manquait un consul parce que habituellement c'était Auguste lui-même qui remplissait cette fonction, mais depuis quelques années, Auguste n'était plus consul, ce qui déroutait beaucoup le peuple romain, qui gardait une place vacante au cas où le prince change d'avis, mais qui, voyant qu'il ne changeait pas d'avis, avait fini par organiser des élections de consul pour qu'il y ait le deuxième consul. Or, cet Egnatius Rufus, qui était un personnage très populaire, mais qui n'était pas du tout bien vu ni par Auguste, ni par l'élite sénatoriale en général, était candidat au consulat. Et il n'était évidemment pas soutenu par Auguste, mais Auguste n'était pas à Rome à ce moment-là. Et le consul qui, du coup, organisait la séance électorale, annonçait, et là on a un témoignage très clair de Dion Cassius là-dessus, le consul a dit qu'il s'opposait à cette candidature et que, quand bien même le candidat arriverait à franchir les différentes étapes de la procédure, et quand bien même il arriverait même à être élu, eh bien il se refuserait à le désigner, c'est-à-dire qu'il arrêterait l'élection et qu'il ne serait pas de toute façon désigné. Et effectivement, il n'a pas été désigné consul. Ce qui montre bien que il y avait ce pouvoir absolu. Et Dion Cassius, qui écrit lui à l'époque impériale, dit quelque chose d'assez révélateur. Il dit là, le consul en charge s'est révélé être un vrai consul républicain, parce qu'il a joué complètement son rôle de consul en cadrant totalement le choix du peuple et en le resituant dans les intentions politiques du prince et des élites. Troisième caractéristique de ce vote populaire romain, c'est qu'il est relativement peu représentatif de l'ensemble du populus. Dans les comices centuriates, je m'y suis suffisamment arrêtée, on voit bien que seules les premières classes sont concernées et que le système centuriate est un système qui réserve le vote aux élites. Les comices tributes, on pourrait penser qu'elles sont plus démocratiques, hein, puisque la répartition des citoyens est géographique et que par conséquent, a priori, il n'y a pas de distinction économique entre les citoyens. Sauf que je vous disais qu'il y avait 4 tribus urbaines, 31 tribus rurales, et que les tribus urbaines regroupaient la plèbe urbaine, hein, la population pauvre de la ville de Rome, et que les tribus rurales étaient, elles, en revanche, plutôt peuplées des grands aristocrates fonciers de Rome. Et leur disproportion numérique, là encore, les tribus urbaines étaient surchargées, mais faiblement représentées. Les tribus rurales étaient relativement peu chargées en individus, mais étaient surreprésentées numériquement. Donc là encore, le caractère démocratique des comices tributes est largement à relativiser. Autre problème en termes de représentation, ça va être très vite le problème de l'absentéisme. Rome va diffuser la citoyenneté de manière assez massive, et ces citoyens romains, ces nouveaux citoyens romains, vont-ils se sentir concernés par les élections qui ont lieu à Rome. Alors, c'est une question sur laquelle je reviendrai un tout petit peu plus tard, mais c'est déjà là quelque chose qu'on peut poser en termes de problème de représentation du corps électoral par rapport au corps civique. Un citoyen romain qui vit très loin de Rome, et il y en aura de plus en plus, puisque, encore une fois, cette diffusion est massive, va-t-il venir à Rome, connaissant les contraintes de temps qu'il y a dans les opérations de vote. Donc, jusqu'à quel point les assemblées qui votent vont-elles être représentatives de l'ensemble des citoyens ? Alors, là, je viens de vous donner des éléments caractéristiques qui viennent vraiment montrer qu'on a un vote populaire extrêmement cadré et limité. Pour autant, il faut garder une vision relativement nuancée, se souvenir donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le passage du vote oral au vote écrit à travers les lois dites tabellaires de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc une proposition politique qui visait quand même à augmenter la liberté d'expression du citoyen, mais je dirais, même si ça va être la transition et surtout le contenu plus important de la suite de mon propos, que toutes ces considérations très pratiques ne sont pas, à mon avis, ce qui est le plus important. C'est-à-dire que là, je viens de vous donner les arguments qui sont des arguments un peu réflexes de ce que l'on peut considérer comme étant les caractéristiques d'un vote romain. Après tout ce que je viens de vous dire, a priori, vous devriez vous dire que, finalement, à Rome, le vote du peuple compte peu. Et surtout, le vote du petit peuple compte extrêmement peu. Or, c'est précisément cette vision qui paraît assez comme ça naturelle hein, que je voudrais un petit peu être amenée à nuancer. Et en commençant par dire que ce qui est, à mon avis, beaucoup plus important à Rome, justement, ce n'est pas cette dimension pratique du vote. Ce n'est pas la question de savoir si ce vote était efficace, s'il était vraiment révélateur d'un choix, s'il était vraiment révélateur d'une expression politique du plus grand nombre, ces questions-là, dans la conception romaine du vote, ne sont pas, paradoxalement, des questions primordiales. Ce qui compte à Rome, c'est que le populus, comme entité, comme ensemble, comme institution, comme symbole, est systématiquement convoqué. Et c'est sur cet aspect, maintenant, que je vais développer mon propos, pour vous montrer vraiment que c'est toute la différence, en fait, enfin, disons qu'il faut accepter de se défaire d'une considération du vote trop pragmatique et de trop réfléchir à la question de son utilité politique. Je vais illustrer ça par un fait politique tout à fait déterminant et qui, en même temps, représente parfaitement ce que je veux essayer de vous montrer concernant le sens politique de ce vote romain. Ce fait politique a lieu très tôt, à l'époque républicaine, puisqu'il a lieu au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment dans une république qui est encore naissante, plus exactement en 339 avant Jésus-Christ. Une loi est votée, et cette loi modifie l'ordre d'intervention dans la procédure législative entre le Sénat et le peuple. Avant l'année 339, le peuple votait, et le Sénat entérinait le vote du peuple en émettant un senatus consulte qui venait confirmer le vote populaire. En 339, la législation inverse cet ordre d'intervention. Désormais, le Sénat émet son avis sur le projet de loi, donc émet un senatus consulte préalable au vote du peuple, et le vote du peuple, le vote de la loi, arrive en dernière phase du processus législatif. Cette inversion de l'ordre d'intervention entre le Sénat et le peuple a été interprétée de différentes manières. Elle a d'abord été vue, cette modification, comme étant l'amorce, déjà, d'un déclin du rôle politique du peuple. C'est l'analyse qu'en fait le célèbre juriste allemand Theodor Mommsen, qui analyse l'évolution du rôle politique du peuple en regardant ce qui se passe jusqu'à l'époque impériale et qui voit dans cette inversion déjà l'amorce d'un déclin. Son argument est le suivant. Le peuple ne va pas contredire le vote d'un senatus consulte et par conséquent, le peuple, à partir du moment où il intervient en dernier, n'a plus qu'une valeur formelle. Il est là uniquement pour valider une décision qui lui a échappé et qui a été prise en amont. Une autre interprétation, et c'est plutôt celle à laquelle je me rattache, a été proposée notamment par André Magdelin, qui, en analysant la loi romaine, a montré à quel point cette inversion avait, et là c'est une analyse qui me paraît tout à fait déterminante dans la signification du vote du peuple romain, cette inversion a selon lui sacralisé le peuple comme force de légitimation. Finalement, ce que l'on voit, c'est que, certes, l'auctoritas, c'est-à-dire l'instance qui est auctor, qui est auteur de la mesure, effectivement, n'est pas le peuple, c'est le Sénat. Mais le peuple est celui qui passe de cette auctoritas à l'ordre final, au ius sum populi, l'ordre du peuple. Et il y a là quelque chose de tout à fait déterminant dans la distinction entre le pouvoir réel, qui est effectivement plutôt du côté du Sénat, et le pouvoir symbolique, qui est plutôt du côté du peuple. Et il y a là, selon Magdelin, la naissance de ce qu'est vraiment le peuple à Rome, une force politique sacrée, parce qu'elle vient donner l'ordre final et qu'elle est l'instance qui légitime le processus décisionnel. À partir de là, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe lorsque on sort de l'époque républicaine et que l'on entre dans la phase impériale. Alors, ce sera le dernier temps avant que je n'en passe vraiment au travail de signification. Là, je vous donne toutes les amorces avant d'en arriver vraiment à la synthèse. À partir du début du 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome entre dans une phase de guerre civile qui, en termes de pratique de vote, va aboutir à une situation relativement, a priori, parce qu'elle ne l'est pas tant que ça, contradictoire. Les guerres civiles qui épuisent la République romaine du début du 2e siècle, du 1er siècle avant Jésus-Christ, pardon, jusqu'à l'arrivée d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ, aboutissent à un double phénomène politique. Le premier, c'est la naissance d'un nouveau type de personnel politique qui va en fait porter en lui les germes de la figure de l'empereur, qui est l'impérator, c'est-à-dire le général victorieux, qui, au nom de ses victoires militaires, et nous sommes en pleine phase expansionniste de la République romaine, va conquérir un pouvoir politique tout à fait déterminant et va le placer au-dessus des institutions. Et donc on voit comment le glissement va se faire de l'impérator à l'empereur. Cet impérator va s'affronter à d'autres impérators, d'où le climat de guerre civile, et au nom de ces rivalités politiques, de nombreux contournements des institutions politiques vont avoir lieu. Et les climats de guerre civile vont considérablement avoir tendance à suspendre les fonctionnements institutionnels normaux. Ça, c'est le premier phénomène politique. L'accompagnant, en même temps, on va se rendre compte que c'est tout à fait corollaire, même si ça paraît contradictoire, il y a une forme d'hyper-politisation des assemblées du peuple. Parce que ces impératores vont essentiellement s'appuyer sur ce qui se passe dans les contiones et dans les comices pour asseoir leur popularité et l'emporter sur le rival politique. On a donc à la fois une forme de confiscation d'un pouvoir politique et en même temps une forme d'instrumentalisation ou du moins de politisation d'assemblées politiques qui vont devenir de moins en moins des lieux de consensus et de plus en plus des lieux d'expression d'une opinion politique. Alors on pourra toujours dire que cette opinion est totalement instrumentalisée par ceux qui tiennent les rênes de la vie politique. Il n'empêche que les comices et les contiones deviennent des lieux de lutte, de meurtre et donc en tout cas de vie électorale et législative relativement intense. Ce qu'on voit apparaître à ce moment-là, c'est du coup, on va toucher du doigt là pour le coup, le sens profond du vote populaire à Rome. Je vous disais, des impératores qui ont tendance à confisquer le rôle politique du peuple. Exemple, Sylla, qui devient dictateur en 82 et auquel la dictature autorise à faire passer des lois et à élire des magistrats sans passer par le vote du peuple, ce qui était parfaitement interdit. Mais il a une dictature qui est conçue comme ceci. Après l'assassinat de César, en 43, se forme un triumvirat des vengeurs et des héritiers potentiels de César, au sein desquels les protagonistes de l'ultime guerre civile. Et même chose, la loi qui investit les triumvirs les autorise à prendre des décisions électorales et législatives en dehors de toute consultation du peuple. Donc on va dire, on est en plein dans ce déclin absolu, cette espèce de longue agonie du vote populaire qui ne fera que se confirmer dans les décennies suivantes et surtout avec le passage au Principat. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ce qui permet au peuple d'être contourné, c'est une loi votée par le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui se confisque de ses pouvoirs politiques, toujours pour une durée limitée, même si dans la pratique elle ne l'a pas forcément toujours été, mais officiellement pour une durée limitée, mais c'est toujours le peuple qui accepte, par un vote législatif, de se priver de sa prérogative législative électorale pour, en temps de crise, confier ses prérogatives à des personnages qui sont en charge de rétablir l'ordre dans la cité en crise. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir que quelqu'un comme César, qui est quand même réputé avoir mis à mort la République romaine, va, en même temps qu'il la met à mort, faire rénover les structures de vote sur le Champ de Mars. Donc on voit bien que ces visions doivent faire la part vraiment de tout ce qui relève du symbole et que le peuple se situe toujours à cette échelle symbolique. Et que par conséquent, ce qui se passe à la fin de la République n'est pas si étonnant que ça, n'est pas si contradictoire que ça. On a bien un pouvoir réel qui est entre les mains d'une poignée d'hommes, mais après tout, la République romaine faisait à peu près la même chose, sauf que c'était plus collégial, mais enfin c'était quand même une poignée d'hommes. Et le peuple est là pour garantir la légitimité de tout ça. Et ce recours au peuple comme instance de légitimation ne va jamais cesser, même dans les périodes où le peuple est le plus dépourvu de toute forme de pouvoir politique. Auguste entre en scène en 27 avant Jésus-Christ, au terme de l'ultime guerre civile qu'il a opposée à son rival Marc-Antoine, et fait quelque chose de tout à fait étonnant. Le 13 janvier 27, je vous ai dit tout à l'heure que c'était en même temps la fin officielle de la République, sauf que cette séance sénatoriale, au cours de laquelle Auguste devient officiellement Auguste, cette séance sénatoriale est présentée dans les sources comme la séance qui a restauré la res publica. Alors, comment concilier les deux choses, fin de la République, restauration républicaine? Eh bien, précisément, justement, toujours en se situant sur ce décalage entre pouvoir réel et pouvoir symbolique. En quoi est-ce qu'Auguste restaure la res publica? D'abord, il ne restaure pas la République, il restaure la res publica, c'est-à-dire qu'il restaure la cité dans son fonctionnement normal, c'est-à-dire d'abord dans une paix civile qui va permettre aux comices de se réunir à nouveau pour élire des magistrats, pour voter des lois. Ce avec quoi Auguste rompt, c'est avec justement les irrégularités institutionnelles de la fin de la République, de l'époque sylladienne, de l'époque césarienne, de l'époque triumvirale. Auguste rétablit un fonctionnement de la communauté de citoyens. Et ce fonctionnement passe par la paix et du coup par une forme de retour à la constitution mixte qui donnait au peuple son rôle de force de légitimation. Auguste, pour autant, introduit bien une rupture politique en ce qu'il va placer le princeps au-dessus de ses institutions. Et on voit bien comment, du coup, se concilie une forme de restauration républicaine et une mutation politique en profondeur. Mais on est bien là sur deux plans différents. Il y a le plan de la forme et il y a le plan du fond. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose en termes de pratique politique. Auguste va à la fois rétablir le vote comitial, tout en modifiant des procédures qui font dire à beaucoup d'historiens de cette époque-là, à la fois des historiens contemporains des faits, mais aussi des historiens actuels travaillant sur cette période-là, que l'époque augustéenne amorce vraiment un déclin irrémédiable du vote comitial et marque vraiment la fin de ce qu'était le populus romanus dans la vie politique romaine. Exemple très rapide de ce que fait Auguste, en 5 après Jésus-Christ, il fait voter une loi qui, dans le processus d'élection des préteurs, introduit une phase intermédiaire qui est la destinatio, une forme de pré-élection, de pré-désignation des futurs préteurs, sauf que cette destinatio est réservée à une assemblée dite destinatrice, assemblée composée de centuries destinatrices qui portent le nom, toutes ces centuries sont créées et portent le nom de princes défunts de la famille impériale. Elles sont créées en mémoire, elles font partie, ces centuries destinatrices, d'une liste d'honneurs funéraires qui sont votées aux princes de la famille impériale. Et elles sont composées de sénateurs et de chevaliers, mais elles votent au nom de la famille impériale, de la Domus à Augusta. Ce qui en dit long sur leur poids ensuite politique dans la suite de la procédure électorale. Ce qui veut dire qu'à partir de l'année 5 après Jésus-Christ, les élections de préteurs se déroulent de la manière suivante. On retrouve le dépôt de candidature, l'affichage de la liste de candidats. Donc, à ce stade-là, on est vraiment dans le maintien de la procédure républicaine. À l'issue donc de cette nominatio, de cet affichage des listes des noms des candidats, eh bien, intervient cette nouvelle assemblée, cette assemblée destinatrice, qui va faire un choix. Avant, on passait directement aux comices. Cette assemblée va faire un choix. Et les noms des candidats qui vont ressortir de ce choix seront des noms de gens qui porteront les noms de princes de la famille impériale. Notamment les petits-fils d'Auguste, notamment Germanicus, le neveu de Tibère, etc. Bon. Donc vraiment des gens importants dans la famille impériale et ayant exercé un pouvoir important, et ayant été souvent pressentis comme successeurs au pouvoir impérial. Il est évident qu'à l'issue de cette phase de destinatio, les candidats qui ressortent seront les candidats élus. On n'imagine pas le peuple désavouer une sélection qui a été faite au nom de la mémoire des princes de la famille impériale. Et il est probable que, même si aucun texte ne le dit de manière assurée, mais enfin on envisage difficilement que les choses aient pu se dérouler de manière autre, il est tout à fait probable que le nombre de candidats destinés par cette assemblée destinatrice soit un nombre parfaitement égal au nombre de postes à pourvoir. Ce qui veut dire qu'après, quand les comices arrivent, on peut avoir une double lecture de cette intervention. Soit on l'interprète vraiment comme une étape formelle qui ne compte pour rien et qui vient là uniquement pour achever un processus rituel en respect avec la coutume des anciens, le mos maiorum, et qui n'a absolument plus aucune valeur politique, qui s'est vidé de tout son sens politique. Soit on pense qu'effectivement, il y a là le rappel de ce qu'est le vote du peuple dans les mentalités romaines, c'est-à-dire d'abord une instance qui apporte sa légitimité et non pas une instance de choix. Je pense, et là je m'inscris dans la lignée de beaucoup d'analyses de cette phase de la destinatio, que devant les comices centuriates, puisqu'il s'agissait des élections de préteurs, la liste de tous les candidats était maintenue, même ceux qui n'avaient pas été présélectionnés par l'assemblée destinatrice. Pourquoi ? Parce qu'on est dans ce fantasme de la restauration républicaine et que par conséquent, il faut que le peuple ait au moins l'illusion qu'il a le choix. Mais personne n'est dupe, ni le peuple, ni les sénateurs, ni le prince. Hein. Mais on reste dans une espèce de discours, j'y reviendrai à cette notion-là, mais de mensonge entendu par tous et nécessaire à tous. Donc la liste est probablement maintenue en l'état, mais dans cette liste apparaissent des candidats destinés. Et il est évident que ce sont eux qui seront élus. Certains, et là on a un texte de Tacite très clair là-dessus, certains de ces candidats destinés ayant par ailleurs reçu en plus un appui tout à fait particulier du prince, une recommandation particulière du prince. Donc voilà ce qu'il faut bien avoir en tête dans cette histoire du vote de la République à Auguste. Un vote qui n'a fait finalement qu'évoluer, en tout cas c'est la thèse que moi je propose, vers une expression de son sens profond, de plus en plus clair, c'est-à-dire un vote d'unanimité, un rituel d'unanimité, un vote de consensus et un vote de légitimation politique. À partir du moment où on a cette vision du vote romain, cette interprétation du vote romain, on comprend davantage le maintien des opérations de vote à l'époque impériale. Alors, dans mon travail de thèse, que j'ai repris ensuite dans l'ouvrage que je vous présente ici, je me suis livrée à ce travail de reconstitution des différentes lois et des différentes élections qui avaient dû avoir lieu, et je m'étais limitée à l'époque vraiment de ce qu'on appelle le proto-principat, c'est-à-dire l'époque de transition, l'époque augusto-tibérienne, vraiment l'étape de mise en place des institutions du principat. Et j'ai donc fait un travail vraiment de reconstitution à partir des sources littéraires et en les croisant avec des sources épigraphiques ou juridiques, de reconstitution des lois et des élections qui avaient été maintenues. Alors, pour les élections, les choses ne posent pas beaucoup de problèmes parce que tout le monde considère que même si les élections ne servent plus à rien, elles sont maintenues. Donc là, il y a quand même une unanimité des historiens à reconnaître un maintien des procédures de vote jusqu'à une époque relativement tardive de l'histoire impériale. Les choses sont plus délicates en termes de reconstitution des votes de loi. Parce que là, on a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on sait quand même que d'autres formes de production du droit sont apparues à partir de l'époque augustéenne et probablement même dès la fin de l'époque républicaine. D'autres formes de production du droit, c'est-à-dire que autant à l'époque républicaine, seule la loi était source de droit, autant à partir d'Auguste, les avis du Sénat, dans certains domaines, vont avoir force de loi, et à l'époque impériale apparaissent ce qu'on appelle les constitutions impériales, qui sont donc d'autres formes de produire du droit, d'autres manières, pardon, de produire du droit. Donc là, il y a quand même une réalité juridique sur laquelle il n'est évidemment pas question de revenir. On a toutes les preuves de cette existence-là. Et puis, on a, accompagnant cette diversification des sources du droit, on a parallèlement à cela un appauvrissement des sources mentionnant des lois. Ce qui fait dire que, de manière quasiment unanime, que la dernière loi votée par le peuple romain aurait été votée sous le règne de Nerva en l'année 96 après Jésus-Christ, et qu'après ce dernier vote de loi, il n'y a vraiment plus eu de loi comitiale votée. Alors, cette mutation, je ne la remets pas en question, je vais être amenée éventuellement à la questionner dans un moment devant vous, mais les preuves sont là, et l'histoire ancienne étant ce qu'elle est, tant qu'on n'aura pas trouvé un document épigraphique d'une loi votée en 150 après Jésus-Christ, on ne pourra pas, de toute façon, nier l'évidence qui est qu'après 96, on n'a plus aucune attestation, ni juridique, ni littéraire, ni épigraphique, d'une quelconque loi comitiale. Donc ça, c'est quand même un constat qu'on peut difficilement nier. Et qu'à côté de ça, on a toutes les attestations qu'on veut de constitution impériale. Hein, donc bon. Pour autant, je reviens sur ma période en amont, sur le proto-principat, l'époque augustéenne. Il y a un certain nombre de lois que j'ai été tentée de rétablir, que j'ai appelées des lois de légitimation du pouvoir impérial et qui, à mon avis, sont la seule manière éventuellement de questionner cette date de 96 après Jésus-Christ comme date vraiment de la dernière loi comitiale votée. Ce que je vous ai dit de la séance du 13 janvier 27, c'est qu'Auguste inscrit une rupture politique profonde dans une restauration avec la République. Comment peut-on concilier de tels inconciliables ? Je vous ai expliqué comment c'était possible, mais il est bien entendu que le Principat naît sur un mensonge et un non-dit. Auguste, le 13 janvier 27, annonce qu'il remet la res publica entre les mains des sénateurs. Ces derniers refusent, par crainte d'un retour aux guerres civiles, lui demandent de garder le pouvoir, et s'ensuit un accord, un compromis entre les deux, selon lequel Auguste n'a en fait qu'un pouvoir militaire pour 10 ans sur une partie des provinces de l'Empire romain. En remerciement de cela, il reçoit le titre honorifique d'Augustus et toute une série d'honneurs. Mais c'est la naissance de la figure du princeps. Toute l'histoire du Principat va être une histoire de maintien de ce mensonge initial. Alors, ce maintien va évidemment s'estomper, mais pour la période qui nous intéresse, c'est-à-dire cette phase de transition, il est crucial pour comprendre le poids qui va encore être laissé au vote du peuple romain. Il faut constamment concilier cette rupture avec la continuité républicaine. Et pour que cela fonctionne, il faut un consensus absolu des éléments de la constitution mixte, c'est-à-dire les magistrats, les sénateurs, le peuple. Et c'est ce qui, à mon avis, est déterminant pour comprendre le maintien, et je dirais même l'accentuation de tout un processus législatif qui fera appel aux comices dans une série de lois à la fois d'investiture, c'est-à-dire de lois qui donnent les pouvoirs aux princes, mais aussi dans toute une série de lois honorifiques qui octroient des honneurs militaires, des honneurs funéraires aux princes et aux membres de la famille impériale. Il y a là, dans ce souci de légitimation du pouvoir impérial, quelque chose de tout à fait déterminant et de spécifique quand même à cette période de l'histoire romaine et qui donne tout son poids à ce vote romain, qui se maintient par ailleurs pour d'autres formes de législation et pour les élections. Mais face à ce travail d'identification des lois, je me suis heurtée dans mon travail de reconstitution à un problème éminent, qui n'est pas le moindre, qui est le silence absolu des sources. Si le vote est à ce point maintenu, comment expliquer que ce vote ne soit pas reconnu par les sources littéraires ? Parce que le travail de reconstitution auquel je me suis livrée, je n'ai pas pu m'y livrer uniquement à partir d'une lecture des sources littéraires. J'ai été amenée à faire tout un travail de reconstitution à partir d'éléments plus juridiques qui me permettaient de dire une telle mesure, à l'époque augustéenne, ne pouvait pas ne pas passer par un vote comitial. Mais rien dans les sources littéraires ne me permettait de le dire. Alors, ce qui a quand même considérablement contribué, et là, je ne suis pas la seule, je m'inscris vraiment dans un courant historiographique qui me précède très, très, très largement. Ce qui a contribué quand même à jeter le soupçon sur ce silence des sources littéraires et à vouloir éventuellement revoir du vote romain là où les sources ne semblaient pas le mentionner, c'est une découverte épigraphique qui a eu lieu au début des années 80 dans le sud de l'Espagne, d'une plaque de bronze qui retraçait tous les honneurs funéraires votés à Germanicus en 19 après Jésus-Christ. Cette découverte épigraphique a été absolument déterminante parce que, au terme de, donc, outre son état son excellent état de conservation qui fait qu'on a la liste de tous les honneurs votés à Germanicus, au terme de cette liste, la dernière clause de la table, puisque donc tous ces actes officiels étaient gravés et diffusés dans l'Empire romain, il y avait un énorme travail de construction d'un consensus idéologique à l'échelle de l'Empire romain, à l'issue de cette liste d'honneurs est inscrite la formule suivante: les consuls porteront ce projet de loi devant le peuple. Jusqu'à cette découverte épigraphique, qui date de 1981, ces mêmes honneurs n'était retracé que chez l'historien Tacite, au livre 2 de ses annales, et Tacite, en bon sénateur de son temps, disait uniquement que les honneurs votés à Germanicus avaient fait l'objet d'un débat sénatorial. Et ça lui permet de rappeler à quel point les sénateurs ont été réduits à néant à l'époque du Principat, qu'ils étaient dans l'adulation du prince, et que c'était à celui qui proposerait les honneurs les plus extravagants au prince pour être bien vu de la part de ce dernier.
Et Swetton passe complètement, parce que ça ne l'intéresse pas de retracer le détail d'une procédure, il n'est pas là pour ça, il écrit une œuvre historique qui a quand même un contenu idéologique très clair, donc bon. Et jusqu'à présent, on disait, les honneurs sont décernés par le Sénat, et on citait ce texte de Tacite. On trouve cette tablette, cette table de bronze, et on se rend compte que les mêmes honneurs, en fait, ont fait l'objet d'un vote de loi. Et il est vrai qu'à partir de ce type de découverte épigraphique, c'est toute la conception du rôle politique et du rôle électoral du peuple qui est entièrement remis en question. Parce qu'à ce moment-là, c'est un soupçon plus général qu'il faut jeter sur les sources littéraires. Et c'est à ce soupçon-là que je m'étais livrée. Si les sources littéraires sont à ce point silencieuses sur le maintien de procédures de vote à l'époque impériale, c'est tout simplement parce que le vote du peuple est une formalité. Et qu'en tant que formalité, il n'est pas nécessaire de la rappeler systématiquement. Alors, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut voir du vote romain partout, hein, qui pourrait être quand même la tendance extrême. Bon. Mais il y a nettement des cas où juridiquement, on sent bien que le peuple a dû, au moins dans ses premières années de mise en place du principat, être sollicité, qu'il l'a été, mais que les sources littéraires n'en ont pas fait mention. Et cette formalité, c'est à elle, pour finir, que je vais donner tout son poids, parce que il ne faut pas la déconsidérer. Un historien contemporain actuel, hein, enfin des années 50, a écrit de la procédure comitiale qu'elle ne comptait plus parce qu'elle n'était plus qu'une formalité. Et en fait, je pense qu'il faut complètement revoir cette idée de la formalité. J'aurais tendance à dire que le vote romain ne compte jamais autant que lorsqu'il est une formalité. Et c'est ce que l'époque impériale dit. L'époque impériale, ou en tout cas le début de l'époque impériale, dit que sans le vote du peuple, on ne peut rien faire qui soit légitime. Et toute l'idéologie impériale va se construire, en tout cas toutes les mesures qui concernent cette idéologie, cette construction d'une idéologie impériale, qui réaffirme l'unité de tous autour d'un mensonge entendu par tous, consenti et voulu par tous, ce mensonge ne peut pas, et quand je dis mensonge, c'est vraiment sans la moindre connotation péjorative que l'on peut trouver dans des sources chez Dion Cassius, par exemple, qui considère que vraiment le principat augustéen a été une vaste supercherie. Mais Dion Cassius lit ça avec un regard d'un homme du IIIe siècle après Jésus-Christ qui a vu le régime impérial évoluer, qui fait partie lui aussi des élites sénatoriales et qui relie la mise en place du régime impérial d'une manière, à mon avis, un peu anachronique. Quand je dis mensonge, donc je le dis avec toute la neutralité absolue, c'est-à-dire que c'est effectivement un mensonge. Auguste ne garde pas son pouvoir pour 10 ans, mais il le fait renouveler tous les 10 ans par un vote du peuple. Donc Auguste a un pouvoir pérenne, mais la fiction veut que ce vote pérenne soit relégitimé tous les 10 ans par le peuple. Auguste instaure un pouvoir dynastique héréditaire. Il est, je l'ai dit en ouverture de mon exposé, il est le premier empereur d'une dynastie. Sauf qu'il établit en même temps ce qu'on appelle une corégence, c'est-à-dire qu'il nomme parmi ses proches des princes de sa famille qui peuvent devenir ses successeurs. Ces corégents sont appelés des collègues du prince, et c'est comme ça qu'on nommait les collègues des magistrats à l'époque républicaine, ce qui instaure le principat dans une continuité de pratique de magistrature républicaine. Et ces corégents reçoivent leur pouvoir, comme l'empereur, de la part de votes de loi d'investiture de la part du peuple. C'est un pouvoir dynastique, héréditaire, légitimé par des lois d'investiture votées par le peuple réuni en comice. Et donc, je pense que cette sacralisation d'un peuple qui est là pour légitimer, et non pas pour décider ou pour choisir, mais pour réaffirmer qu'il est d'accord, qu'il est avec ces élites qui, elles, décident, c'est le sens que Rome a toujours donné au vote du peuple. Dès l'époque républicaine, dès la loi de 339 avant Jésus-Christ, le vote du peuple a été considéré comme un vote consensuel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lorsque le peuple parle qu'il y a un problème dans la cité. En principe, quand Rome va bien, le peuple répond. Il ne prend pas la parole. Alors, quelques mots de conclusion pour en finir avec cet exposé. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que Rome est la cité d'un peuple éternellement convoqué, quelle que soit la réalité de son efficacité politique. Le peuple romain, tel qu'il intervient dans les institutions au sein desquelles il est amené à voter, est avant tout conçu comme une force de légitimation politique. Qui décide? Qui choisit? Qui est là? Qui est présent au comice? Qui se déplace? Qui, alors que la citoyenneté, condition sine qua non du vote, ne cesse de s'étendre et de sortir du territoire de la ville, qui donc est réellement concerné par des élections de magistrats qui deviennent des marionnettes entre les mains du prince, par des votes de loi qui ne servent qu'à réaffirmer la légitimité du pouvoir impérial? Toutes ces questions pourraient paraître déterminantes pour savoir si oui ou non Rome a quelque chose à voir avec une démocratie. Or, selon moi, ces questions ne sont pas si fondamentales que cela. Rome, depuis les origines de la République, fonde sa démocratie sur un peuple convoqué pour légitimer des prises de décision politiques. Peut-on donc considérer que le peuple romain se dépolitise dans le passage de la République au Principat? Peut-on dire que le vote romain se vide de son sens politique? Pour répondre à cette question, je me suis d'abord demandé ce qu'il était, ce vote sous la République. Et j'ai essayé de vous montrer qu'il était quelque chose de très contrasté. Il y a certes des moments de choix, et je rappelle ce rôle quand même de la Contio, qui est un lieu de prise de parole, mais dès la République, nous avons vu à quel point il s'agit d'abord de vérifier l'assentiment du peuple. Que devient-il à l'époque impériale? La notion de choix disparaît-elle complètement? Il y a des moments d'émeute, de plus en plus rares, mais elles existent, notamment à l'époque augustéenne. Devient-il un rituel d'unanimité? Probablement. Mais, j'aurais tendance à dire, n'a-t-il jamais été autre chose qu'un rituel d'unanimité? Le peuple se dépolitise-t-il en ne réclamant que du pain et des jeux? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord se rappeler que cette pratique de distribution au peuple remonte, n'est pas une innovation du pouvoir impérial, c'est une pratique sociale qui remonte très loin, qui commune au monde gréco-romain, selon lequel, si les élites ont l'essentiel du pouvoir, c'est parce que sur elles repose également l'essentiel des charges, et que les élites se doivent, c'est ce qu'on appelle l'évergétisme, se doivent de distribuer au peuple, de quoi lui garantir une certaine qualité de vie. Si on en revient aux institutions, qui ont été quand même au centre de ma démonstration, le Populus Romanus est un symbole politique qui fonde son action de vote sur une pratique rituelle éminemment formelle et qui ne fait que se formaliser. Et j'aurais tendance à dire que le Principat n'a fait qu'une chose, c'est un peu peut-être excessif hein, ce que je dis, mais je le dis de manière réfléchie quand même, le Principat n'a rien fait d'autre que d'amener le vote romain à l'expression de son essence, c'est-à-dire être un vote d'unanimité et de légitimation. Un cas qui me paraît tout à fait intéressant, et je terminerai avec ça, la formule SPQR, avec laquelle j'ouvrais mon exposé tout à l'heure. Je disais qu'on la rencontre, donc Senatus Populusque Romanus, sur tous les frontons des arcs publics à Rome, et dans le monde romain, enfin sur beaucoup d'entre eux. Et c'est une formule qui apparaît très nettement dès la fin de l'époque républicaine, et surtout à l'époque impériale. Et c'est une expression qu'on ne trouve pas à l'époque républicaine. SPQR, c'est vraiment l'emblème plutôt de l'époque impériale. Alors, Théodore Mommsen, que j'ai cité tout à l'heure, dit « SPQR, c'est une formule qui montre que le peuple est désormais inclus dans le Sénat ». Et là, il alimente sa propre thèse, selon laquelle, qui va aboutir à sa thèse de la diarchie, c'est-à-dire le Principat, c'est un dialogue Sénat-Prince, ce n'est plus la constitution mixte, et le peuple, qui depuis le IVe siècle n'est qu'une force formelle, est totalement déclinante et disparaît, est inclus, absorbé par le Sénat, et c'est ce que veut dire cette formule. Je pense, et là je m'inscris là aussi dans une tendance historiographique dont je n'ai pas la responsabilité, mais que je cautionne tout à fait, que SPQR, en tout cas pour le haut Principat, est une formule qui retrace une réalité institutionnelle, c'est-à-dire que dans tout ce processus de légitimation du pouvoir impérial, les arcs, parmi tant d'autres honneurs votés aux membres de la famille impériale, faisaient l'objet d'un senatus consulte et d'un vote. Et senatus populus quae romanus, sénat et peuple romain, veut bien dire ce que ça veut dire. Même si ça devient très probablement une expression purement symbolique au fur et à mesure qu'on s'avance dans l'époque impériale, on continue à marquer les monuments publics de cette formule. Ce qui veut dire que ce poids du symbole du peuple reste une réalité tout à fait déterminante. Et pour conclure définitivement, et pour en revenir à ma question de départ, Rome a-t-elle quelque chose à voir avec la démocratie ? J'aurais tendance à dire que oui, que c'est une forme de démocratie reposant sur un imaginaire collectif, faisant du peuple la source symbolique, agissant avec le Sénat, non pas inclus dans les Sénats, de toute forme de pouvoir politique. Et c'est en cela qu'à mon avis, Rome a pu, même à l'époque impériale, apporter sa pierre à l'édifice de la construction démocratique. Merci.